Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Vous nous appelez, vous vous exprimez, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous reviendrons sur les événements de ces derniers jours à Bamako, au Mali, après les violences entre manifestants qui réclament la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et les forces de l'ordre, les arrestations de plusieurs leaders de la contestation et de plusieurs militants. La crise, vous le voyez, la crise politique s'est donc durcie. Et pour tenter de décrisper la situation, hier, les autorités ont libéré plusieurs des personnes arrêtées. Samedi, le président Ibeka a fait un geste en annonçant la dissolution de la Cour constitutionnelle. C'est l'une des revendications des opposants. Mais le mouvement de contestation se dit plus que jamais déterminé à obtenir le départ du chef de l'État. Alors quel doit être le scénario de sortie de crise? Quelle marge de manœuvre reste-t-il encore au président Ibeka? On en parle, c'est notre débat ce matin. Vous nous appelez 33 9 693 693 70 et vous continuez évidemment à poster vos commentaires sur Facebook et WhatsApp. Mais d'abord, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer justement avec une question sur la crise politique au Mali. Brahima, bonjour.
Bonjour Anne Gomez, bonjour à tous les auditeurs.
Soyez le bienvenu, vous êtes à Bamako, nous vous écoutons.
Oui, Anne, j'ai deux questions à poser. Le président Ibeka a annoncé samedi une dissolution des fêtes de la Cour constitutionnelle au moment où la situation dégénérait à Bamako lors des manifestations. Mmh. Alors, ma première question, cette dissolution remet-elle en cause certains résultats des législatives validés par la Cour sortante?
Oui, effectivement, bonne question que vous posez. Coralie Pierret, bonjour.
Bonjour, bonjour Brahima, bonjour à tous.
Vous êtes l'une des correspondantes de RFI au Mali. Rappelons tout de même que la Cour constitutionnelle est contestée depuis qu'elle a annoncé les résultats définitifs des élections législatives le 30 avril. Sa dissolution, je le disais en préambule, était l'une des revendications du mouvement de contestation, le mouvement du 5 juin. Coralie, va-t-on vers une annulation des résultats contestés?
Alors c'est justement l'une des questions du moment et pour l'instant ça n'est ni clair ni confirmé. Maintenant que l'annonce de la dissolution de la Cour est faite, il va d'abord falloir abroger le décret de nomination des 9 juges de la Cour sortante, puis en renommer des nouveaux. Et selon la Cour constitutionnelle, la Constitution malienne, 3 sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature, 3 juges sont nommés par le président de la République et 3 juges sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, sachant, et il faut le préciser, que Moussa Timbine, le nouveau président de l'Assemblée nationale, est également contesté par les manifestants, car une partie des nouveaux députés ont obtenu leur siège après le verdict de la Cour constitutionnelle et n'auraient pas vraiment été élus selon les contestataires.
En tout cas, pour le moment, Coralie Pierret, les nouveaux juges n'ont pas été nommés.
Non, pas encore. Dans son allocution télévisée samedi soir dans la nuit, Ibeka a annoncé que cette semaine, les nouveaux juges seront nommés sans annoncer de date, afin, je cite, que la nouvelle Cour nous aide à trouver une solution au contentieux issu des élections législatives. Alors, est-ce que la nouvelle Cour va abroger ou amender les arrêts de la Cour sortante qui valide les résultats des législatives? Est-ce que les premiers résultats provisoires valident eux par l'administration territoriale seront ceux qui seront appliqués? Est-ce que des élections législatives partielles seront organisées comme le préconisait la mission de la CEDEAO? Pour l'instant, ces questions restent sans réponse, même si le président Ibeka, dans son discours du 12 juillet, indiquait vouloir aller vers la mise en œuvre des recommandations issues de la mission de la CEDEAO.
Et on aura l'occasion d'en parler évidemment dans une demi-heure avec les auditeurs de RFI. Brahima, vous avez une autre question?
J'ai une deuxième question, et c'est la suivante. Parmi les demandes du M5, d'autres pourraient-elles connaître une réponse favorable de la part du président?
Alors, parmi ces demandes du M5, il y a, rappelons-le, la nomination d'un nouveau Premier ministre et la dissolution de l'Assemblée nationale.
Alors, pour le moment, la dissolution de l'Assemblée nationale ne semble pas à l'ordre du jour. Hein, le chef de l'État a exclu cette possibilité mercredi dernier, car il ne veut pas priver de leur siège ceux qui, dans la nouvelle Assemblée, ont été élus sans contestation, parce qu'il y en a, évidemment. Et puis, il y a une inconnue juridique, car selon l'article 42 de la Constitution, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute dans l'année qui suit l'élection. Alors, concernant le Premier ministre, mercredi dernier toujours, le chef de l'État a renouvelé sa confiance au Premier ministre actuel, Boubou Cissé. Il paraît donc aussi exclu qu'un autre Premier ministre issu du M5 soit nommé. Il faut rappeler que le Mali n'a plus de gouvernement depuis un mois environ. Le 12 juin, les ministres avaient remis leur démission au président. Boubou Cissé avait tout de suite été reconduit, mais le nouveau gouvernement n'a toujours pas été formé. Les autorités ont plusieurs fois renouvelé leur souhait de former un gouvernement d'union nationale, refusé par les opposants du M5.
Brahima, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, bien sûr, Juan.
On vous souhaite une bonne journée, alors.
Ok, bonne journée à vous également.
Merci. Merci de nous écouter à Bamako. Coralie Pierret, bonne journée également. Bamako, où il est 8h16, 33 9 693 693 70. Ernest, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio du monde.
Vous êtes à Paris et vous avez des questions sur les exactions commises par l'armée du Burkina Faso contre des civils.
Ouais. Des fosses communes contenant au moins 180 corps ont été découvertes dans la ville de Jibo, au nord du Burkina Faso. Pour Human Rights Watch, les militaires burkinabés sont derrière ces massacres. Alors, sur quelle preuve l'ONG s'appuie-t-elle pour accuser l'armée burkinabé ?
Oui, les forces armées du Burkina Faso accusées de violation des droits de l'homme sous couvert de la lutte contre les djihadistes. Penaï Traoré, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Ernest.
Merci de nous rejoindre, vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Voilà ce qu'on peut lire dans le rapport de l'ONG Human Rights Watch. Les preuves disponibles suggèrent l'implication des forces de sécurité gouvernementales dans des exécutions extrajudiciaires de masse. De quelles preuves s'agit-il ?
Avant de répondre à la question de cette auditeur, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que des soupçons pèsent sur l'armée burkinabé dans des cas d'exaction sur des civils. Seulement cette fois, 180 corps ont été découverts dans les alentours de la ville de Djibo, dans le nord, entre novembre 2019 et juin 2020, par des habitants qui, excédés de les voir sur leur chemin, ont organisé des enterrements collectifs en mars et avril, d'où la présence de fosses communes. Et selon le document de Human Rights Watch, d'autres corps n'ont toujours pas été enterrés et les proches ne s'en occupent pas par peur de représailles. Alors, selon des témoignages cités dans l'enquête, des personnes tuées avaient les yeux bandés et les mains attachées, ce qui laisse croire qu'elles ont été abattues de sang-froid. L'ONG indique que les preuves disponibles suggèrent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'implication des forces de sécurité dans ces exécutions extrajudiciaires. J'ai pu joindre la responsable Sahel de Human Rights Watch qui m'a expliqué qu'ils n'ont pas de preuves judiciaires à montrer, à brandir, mais qu'ils s'appuient plutôt sur des témoignages d'habitants des familles qui ont vu leurs proches enlevés et qui ont été retrouvés morts.
Donc ce rapport, Penaï, est basé sur les témoignages des habitants de Djibo.
Oui, Rwanda, Human Rights Watch a enquêté auprès des populations de Djibo. Cette enquête est essentiellement basée sur des témoignages d'habitants de la ville. Les habitants qui ont été interrogés soutiennent que ce sont les soldats burkinabés qui contrôlent Djibo et ils expliquent aussi que quand il y a des suspicions de présence de djihadistes, ce sont les forces de défense et de sécurité qui mènent les fouilles et quand ces soldats repartent, les personnes qu'ils amènent, la plupart des hommes, ne reviennent pas vivants. Cependant, Human Rights Watch dit qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier ces allégations de manière indépendante.
Ah, c'est important effectivement de le préciser. Les autorités du Burkina Faso ont réagi à cette enquête.
Oui, les autorités burkinabées ont réagi quelques jours après la publication de l'enquête. Le porte-parole du gouvernement Rémi Gyanginou a rappelé que tous les faits ne doivent pas être imputés aux forces de défense défense et de sécurité. Selon ses explications, certains actes sont commis par les groupes armés terroristes qui ont réussi à s'emparer des uniformes et des moyens logistiques de l'armée burkinabé. Rémi Dianguinou a précisé que même des positions des soldats burkinabés ont été attaquées par ces groupes armés avec une logistique appartenant aux forces de sécurité du pays. Donc, dans ce cas de figure, il soutient que cela peut engendrer une certaine confusion auprès des populations qui sont le plus souvent cibles de ces attaques. Quoi qu'il en soit, l'ONG a demandé une enquête indépendante et les autorités burkinabées se sont engagées à mener cette enquête.
A-t-on répondu à vos questions, Ernest ?
Oui, très bien, Johan, et bonne journée à vous.
Merci.
Bonne journée à votre invité.
Merci de vos encouragements et bonne journée à Penaï Traoré du service Afrique de RFI. Vous souhaitez réagir justement à la publication de ce rapport? N'hésitez pas, appelez-nous. Nous vous donnerons la parole vendredi dans la libre antenne. 33 9 693 693 70. Un rapport qui suscite, disons-le, pas mal de questions au standard. On continue à en parler avec qui? Avec Trésor. Bonjour.
Bonjour, monsieur Juan Gomez.
Bienvenue, Trésor. Vous êtes à Kinshasa. Nous vous écoutons.
Merci. Après la publication des rapports sur les exactions commises par les forces de l'ordre burkinabées sur les civils, les États-Unis menacent le pays d'arrêter son soutien sécuritaire. Quelles sont les modalités de ce soutien américain au Burkina Faso et quelles pourraient être les conséquences d'après les retraits sur la lutte contre le terrorisme dans la région.
Ouais, c'est vrai que les États-Unis ont tapé du poing sur la table. Hein. Le secrétaire d'État américain adjoint pour l'Afrique a été on ne peut plus clair. L'aide américaine pour la sécurité ne peut pas continuer sans une action des autorités burkinabées contre les abus. William Assanvo, bonjour. William Assanvo, êtes-vous là ? Chercheur principal à l'ISS, l'Institut d'études de sécurité, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. M'entendez-vous, William ? Alors, visiblement, nous avons quelques difficultés pour établir la liaison. Pourtant, sur mon écran, vous êtes là. En tout cas, je vois votre nom apparaître. Je vois le rouge allumé comme si vous étiez en ligne. Et visiblement, soit il y a un mauvais contact entre l'ordinateur et la console, soit la ligne s'est coupée, tout simplement. On vous rappelle, on est en direct. Trésor, vous patientez un tout petit peu. On me dit que c'est OK pour William Assanvo. Bonjour.
Bonjour.
Ah, ravi quand la technologie fonctionne. Merci d'être avec nous. Je le disais à l'instant, vous êtes spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité. Les États-Unis ont donc menacé le Burkina Faso d'arrêter leur coopération sécuritaire avec le pays après la publication du rapport de Human Rights Watch. Expliquez-nous, d'abord, est-ce que vous êtes surpris, vous, par cette réaction immédiate de Washington ?
Alors je pense que cette réaction vient s'ajouter à la série de réactions qu'on a déjà enregistrées au cours des dernières semaines, des derniers mois, à la suite justement de toutes les publications faisant état d'implication des forces de défense et de sécurité des pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Donc je pense qu'il faut que cette prise de position s'inscrit dans cette exaspération qu'on observe de plus en plus au niveau des acteurs internationaux.
Ouais. Que sait-on de la nature de l'aide américaine au Burkina Faso concernant justement la lutte contre le terrorisme ?
Alors, la coopération sécuritaire entre les États-Unis et le Burkina est très ancienne et elle s'est accentuée au cours des dernières années. Le côté américain, on parle d'une augmentation exponentielle. Donc, c'est bien entendu sur fond d'aggravation de la situation sécuritaire. Et elle prend principalement deux formes. Elle prend la forme de dons en équipement, en matériel de communication, matériel de transport, équipement individuel. Elle prend aussi la forme de formation et d'activités de renforcement des capacités à l'endroit des forces de défense et de sécurité, l'armée, la police, la gendarmerie. Également des enquêtes sur les questions de terrorisme. Il y a aussi une coopération avec le pôle judiciaire spécialisé anti-terrorisme. Donc cette coopération est particulièrement importante, non seulement au Burkina, mais aussi avec les autres pays du Sahel. Ouais,
coopération importante, hein, disiez-vous, William Assanvo. Trésor, vous avez une autre question à poser à notre invité.
Oui. Quelles pourraient être les conséquences d'après les retraits sur la lutte contre le terrorisme dans la région?
Les conséquences d'un retrait américain dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest de façon générale, William Assambo, c'est vrai que l'apport des États-Unis dans la lutte contre le djihadisme au Sahel est jugé indispensable.
Oui, cet apport est important, il est nécessaire, mais je pense qu'il est important de préciser peut-être que le soutien qui est apporté par les partenaires extérieurs tels que les États-Unis, malgré ce soutien-là, ce sont les pays du Sahel qui supportent le coût le plus important, aussi bien humain que financier. Vous parlez du Burkina Faso, par exemple, les dépenses de défense et de sécurité pour cette année 2020 sont estimées à 344 milliards de francs CFA. Ça représente près de 13% du budget global. Sans sous-estimer le soutien, sans sous-estimer le soutien qui est apporté par les États-Unis, on peut tout de même aussi faire le constat que ce soutien n'a pas empêché la détérioration continue de l'insécurité que l'on observe dans la région, particulièrement au Burkina. Donc, si ce soutien est nécessaire et utile, il n'a pour l'instant pas été déterminant, pas plus que ne l'a été d'ailleurs la réponse militaire jusqu'à présent. Donc, sans doute, parce que les besoins sont encore importants, et que le soutien des partenaires extérieurs est encore insuffisant. Il y a aussi le fait que il est aussi important qu'on agisse sur d'autres plans, pas que sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan politique et sur le plan de la gouvernance au sens le plus large.
D'accord. Donc à vous entendre, ce ne serait pas forcément un coup dur pour le Burkina Faso, pour la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Merci infiniment, William Assambo, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à Amidou, pour répondre à Trésor qui est à Kinshasa. Bonne journée à tous les deux. Françoise Coste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, professeure à l'université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste des États-Unis. On s'est permis de vous contacter ce matin car Farid, qui est à Lomé, a des questions à nous poser sur la publication d'un livre contre Donald Trump, livre qui sort aujourd'hui même, 14 juillet. Farid, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Lomé, nous vous écoutons avec Françoise Coste.
D'accord. Aujourd'hui, un livre écrit par Marie Trump, la nièce du président américain, va être publiée. Elle y décrit Donald Trump comme un menteur narcissique.
Un menteur narcissique, effectivement.
Oui. Comme première question, j'aimerais savoir quel est l'intérêt pour la nièce du président de publier un tel livre.
Ah, d'autant que c'est la première fois qu'un membre de la famille Trump s'attaque directement au président, Françoise Coste.
Oui, et c'est très intéressant parce qu'on voit bien que la famille Trump, Donald Trump en tête, essaye de recréer un peu une dynastie politique à la Kennedy, avec le glamour des Kennedy, avec sa fille, son gendre, qui sont très impliqués à la Maison-Blanche. Donc il y a cette intention de créer une dynastie. Et là, de l'intérieur même de la famille, vient quelqu'un qui sabote, si vous voulez, toute cette communication plutôt bien huilée. Et l'intérêt qu'elle a, c'est que Marie Trump, elle parle de l'intérieur, donc elle est informée, et surtout, elle est compétente. Parce que elle est elle-même psychologue. Elle est docteur en psychologie et c'est une approche psychologique qu'elle offre de son oncle et qui est donc, elle a beaucoup d'informations. Et elle sait les analyser. C'est
oui.
Ça qui fait.
Et en même temps, excusez-moi, je n'ai pas lu ce livre, puisqu'il ne sort que dans quelques heures aux États-Unis. Mais enfin, les bonnes feuilles sont disponibles depuis quelques jours. En même temps, on sait bien qu'elle a une dent contre son oncle. Elle ne supporte pas depuis qu'elle est petite Donald Trump.
Oui, il y a un différent familial au cœur de tout ça. Marie Trump, c'est la fille du frère aîné de Donald Trump, qui s'appelait Robert Trump. Et ce Robert, c'était le fils aîné. Et c'était lui qui devait normalement, dans l'ordre des choses, hériter de l'entreprise familiale qui était dans la construction à l'époque. Et donc le père était déjà millionnaire, Fred Trump, et Robert était censé hériter de tout ça, et il a déçu le père, il n'avait pas l'envergure, son rêve c'était d'être pilote d'avion, ce qu'il est devenu d'ailleurs, donc il n'était pas du tout intéressé par l'entreprise
bâtie
par
familiale,
le père.
Oui.
Et en plus, comme il a été donc rejeté par le père, donc Fred Trump, qui avait l'air d'être monstrueux, d'après Marie Trump, le père a choisi Donald plutôt que Robert pour canalisé en lui. Et ce pauvre Robert a fini alcoolique et mort très jeune. Et ça, on sent bien que donc, sa fille Marie n'a jamais pardonné au reste de la famille d'avoir abandonné son propre père.
Oui, et surtout, elle n'a jamais pardonné à Donald Trump qu'il aille au cinéma le soir de la mort de son propre père. Françoise Coste, merci infiniment d'avoir été avec nous, historienne, spécialiste des États-Unis. Farid, bonne journée à Lomé. On va marquer une pause et retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin, et on revient tout de suite après, dans 10 minutes, pour débattre de la crise politique au Mali. À tout à l'heure.